Merci d'écouter RFI Midi en temps universel. Il est 14h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. Une longue file d'attente, des dizaines de milliers de fidèles patientes avant de se recueillir devant la dépouille du pape François dans la basilique Saint-Pierre. Des hommages se déroulent dans le monde entier. Nous retrouverons Amira Swilem à Jérusalem. Au moins 26 personnes tuées mardi lors d'un attentat terroriste au Cachemire indien dans le nord du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils en Inde depuis 2008. Nous retrouverons sur place comme Bastin. Elon Musk va finir très prochainement sa mission au sein de l'administration Trump. Son travail pour réduire les dépenses fédérales est presque terminé. Elon Musk va se consacrer à ses affaires et tenter de redresser son entreprise Tesla, qui ne va pas bien, nous expliquera Nicolas Feldman. Karine Autain de New York reviendra sur cette nouvelle décision d'un juge qui détricote encore les décrets présidentiels. Cette fois-ci, la justice ordonne de restaurer l'antenne de la radio Voice of America, qui a cessé d'émettre il y a un mois après une décision de Donald Trump. Enfin, en France, une nouvelle révélation dans l'affaire Betaram, la fille de François Bayrou, affirme avoir été violemment battue quand elle avait 14 ans dans cet établissement catholique. Son père n'était pas au courant, nous dira Raphaël Delvolvé.
RFI Midi.
Des dizaines de milliers de fidèles affluent à la basilique Saint-Pierre au Vatican pour se recueillir devant la dépouille du pape François. Le souverain pontife repose dans son cercueil, il porte une mitre blanche et une chasuble rouge et ses mains enserrent un chapelet. Pendant 3 jours, les fidèles pourront défiler devant sa dépouille et ils sont nombreux à espérer voir le corps de François avant son inhumation. Après le décès de son prédécesseur Benoît XVI, 200 000 personnes s'étaient recueillies devant sa dépouille avant son enterrement en présence de 50 000 fidèles. Alors il y a des messes en hommage au pape François célébrées partout dans le monde. À Jérusalem, il y a eu une célébration au Saint-Sépulcre en présence de représentants de plusieurs cultes. Amira Swilem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur le parvis de l'église. Comment se sont passés les hommages ce matin ?
Alors, il y a eu beaucoup d'émotions, vous l'imaginez, ce matin sur le parvis du Saint-Sépulcre où je me trouve. C'est le lieu le plus important du christianisme à Jérusalem. Il y a eu de l'émotion, mais il y a eu aussi beaucoup de couleurs, pourrait-on dire. C'est au son de bâtons qui frappent le sol que les délégations religieuses arrivées, chasubles, aubes, soutanes, costumes et même tarbouches ottomans. La mosaïque chrétienne était reconstituée le temps d'un hommage au pape. Réunis dans le cœur du lieu saint, quelques centaines de personnes, alors des ecclésiastiques comme je vous le disais, mais il y avait aussi des grappes de fidèles, des touristes qui se sont recueillis au son de l'orgue, que vous entendez probablement d'ailleurs derrière moi, et de prières. Peu de paroles ce matin, mais beaucoup, beaucoup d'émotions, s'il fallait résumer.
Alors peu de paroles, et il y a aussi un autre silence qui nous intéresse, c'est celui des autorités israéliennes.
Oui, la mort du pape crée un malaise ici, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu l'occasion de vous donner à entendre hier des fidèles juifs à Jérusalem qui, pour certains, ne cachent pas leur colère envers ce pape qui a critiqué à plusieurs reprises Israël. On rappelle que le pape a exprimé à plusieurs reprises son émotion face à la mort d'enfants et d'innocents à Gaza. Il a d'ailleurs dit ne pas vouloir parler de guerre, mais de cruauté, je le cite. Hein, et ces mots-là ne passent pas en Israël. Alors, ce jour, seul le président Herzog a rendu hommage à feu le souverain pontife. Pas d'hommage du premier ministre Benjamin Netanyahou, pas encore en tout cas. Le ministère des Affaires étrangères israélien avait de son côté publié un tweet d'hommage avant de le supprimer, de façon très remarquée d'ailleurs. Alors il y a quelques heures, Raphaël Schutz, qui est un ancien ambassadeur israélien au Vatican, a appelé son pays à la sagesse mais aussi à la diplomatie. Il regrette l'attitude israélienne et invite les autorités à bien envoyer une délégation aux funérailles du pape samedi, sous peine d'entacher l'image d'Israël et d'accentuer ce qu'il appelle son isolement sur la scène internationale.
Amira Swilem, en direct de Jérusalem, sur le parvis du Saint-Sépulcre.
La guerre à Gaza et Mahmoud Abbas qui demande au Hamas de libérer les otages.
Pour le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le Hamas a fourni à l'occupation criminelle des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza. Le plus flagrant de ces prétextes étant la détention d'otages, déclare-t-il. C'est moi qui en paye le prix, notre peuple en paye le prix, pas Israël. Libérez-les, conclut Mahmoud Abbas. Sur le terrain, la défense civile palestinienne annonce annonce que de nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 17 morts dans la bande de Gaza ce matin. La frappe la plus meurtrière s'est produite sur une école qui abritait des personnes déplacées, faisant 11 morts et 17 blessés, y compris des femmes et des enfants. Le bombardement a provoqué un incendie massif dans le bâtiment et plusieurs corps calcinés ont été retrouvés. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils en Inde depuis 2008. Au moins 26 personnes ont été tuées mardi lors d'un attentat terroriste au Cachemire indien dans le nord du pays. 17 autres personnes dans une attaque au cours de laquelle des hommes armés ont ouvert le feu sur des touristes. Com Bastin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Inde. Com, cette tuerie secoue d'autant plus le pays qu'elle a eu lieu dans un état symbolique pour toute l'Inde.
Tout à fait, c'est un séisme pour tout le pays. D'abord pour Narendra Modi qui avait promis d'en finir avec le terrorisme et supprimer en retour beaucoup de libertés dans cette région à majorité musulmane. Mais douche froide aussi pour l'opposition, élue en octobre en prônant la réconciliation dans le Cachemire en crise politique et sécuritaire depuis des décennies. Alors le groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque, The Resistance Front, dit s'être formé en réaction à la suppression de l'autonomie du Cachemire par Narendra Modi, mais les services secrets indiens jugent qu'il est soutenu par le Pakistan, adversaire mortel en conflit frontalier avec l'Inde dans cette région himalayenne. Cela en fait donc un ennemi de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Et si l'opposition a pu être critique de la politique autoritaire des nationalistes hindous, elle condamne aujourd'hui sans réserve ce bain de sang. On manque d'informations, mais selon la presse indienne, des musulmans seraient descendus dans la rue pour se dissocier des terroristes. Tout le monde ici veut éviter des affrontements intercommunautaires sur place.
Com Bastin en direct de Bangalore sur cette attaque qui a tué 26 touristes au Cachemire indien.
Et on en reparlera dans quelques minutes avec notre invité. Rendez-vous juste après le journal des sports.
Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 a secoué la Turquie ce midi. La secousse s'est produite au large de Silivri, en mer de Marmara. Le tremblement de terre a été ressenti dans tous les quartiers d'Istanbul. Immense mégalopole de 16 millions d'habitants. Deux répliques ont été enregistrées. L'une toujours dans la mer de Marmara, de magnitude 4,5, et l'autre dans les terres, à l'ouest d'Istanbul, de magnitude 5. Aucun dégât ni blessé n'a été signalé dans l'immédiat. Le vice-président américain J.D. Vance est en Inde, mais il a fait plusieurs déclarations concernant l'Ukraine. Pour lui, Moscou et Kiev doivent parvenir à un accord, faute de quoi Washington mettra fin à ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu. Nous avons fait une proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens, dit-il, et il est temps pour eux de dire oui ou pour les États-Unis de se retirer de ce processus. J.D. Vance indique également que les deux pays devront faire des échanges territoriaux pour parvenir à un accord. La rencontre de Londres entre Européens, Américains et Ukrainiens se déroule aujourd'hui, pas au niveau des ministres, mais à un haut niveau tout de même, pour aborder cette guerre en Ukraine.
Aux États-Unis, Elon Musk compte prendre ses distances avec l'administration Trump.
Il juge son travail pour réduire les dépenses fédérales au sein de la commission Dodge en partie accompli. À partir de mai, Elon Musk va donc consacrer plus de temps à Tesla. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Olivier.
Parce qu'Elon Musk le concède, son implication auprès de Donald Trump a eu des répercussions sur la marque.
Oui, et pour le voir, il suffit de jeter un œil à la bourse. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, en 4 mois, l'action de Tesla a perdu près de 40% de sa valeur. Autre signal inquiétant, au premier trimestre, le bénéfice de Tesla est en chute libre et les ventes beaucoup moins importantes que prévu. Alors la marque souffre d'abord de la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump, appel au boycott, manifestations, actes de vandalisme. Tesla est pris pour cible aux États-Unis et en Europe. Mais les difficultés du constructeur sont aussi plus structurelles. Ces modèles sont vieillissants, ils coûtent encore trop cher et souffrent de la concurrence des constructeurs chinois et américains. Pour se relancer, Tesla mise sur ses futurs modèles. Son véhicule électrique 100% autonome doit être produit à grande échelle à partir de l'année prochaine. Le retour aux affaires d'Elon Musk a en tout cas été salué sur les marchés, puisque l'action de Tesla a bondi hier de 5% à la bourse de New York.
Nicolas Feldman du service économie de RFI, on reste aux États-Unis avec un juge qui a ordonné hier que l'administration Trump restaure l'antenne de la radio Voice of America qui a cessé d'émettre depuis le 15 mars dernier et de réembaucher tous les employés mis à pied. Et même si la Maison-Blanche fera certainement appel de cette décision, c'est le dernier point du pouvoir judiciaire emporté contre l'exécutif de ces derniers jours. De nombreux juges stoppent en effet les projets que Donald Trump décide par décret présidentiel. Les explications de notre correspondante aux États-Unis, Carrie Noten.
L'ordre de laisser la radio Voice of America reprendre la programmation n'est que le dernier exemple du travail des juges qui détricotent les actions imposées par Donald Trump par décret présidentiel. L'administration Trump voulait supprimer le marquage X sur les passeports des personnes non binaires, c'est ce qu'avait affirmé Donald Trump le jour de son investiture. Eh bien, une juge a interdit à l'administration fédérale d'appliquer le décret présidentiel. Des plaignants ont targué qu'ils avaient le droit à des documents d'identité les plus précis et corrects possible. Quelques jours plus tôt, c'est une autre juge qui a ordonné le déblocage des fonds alloués à l'environnement, au climat ou aux infrastructures que Donald Trump avait bloqué en janvier. Sur le papier, l'administration Trump doit faire marche arrière. Même conclusion pour l'aide américaine à l'étranger. Elle est censée reprendre au plus vite. Enfin, dans le cas de licenciement des agents fédéraux, eh bien, les parcs nationaux ont finalement eu gain de cause et prévoient de réembaucher 7700 agents saisonniers cet été. Carrie Noten, New York RFI.
En France, une nouvelle révélation dans l'affaire Betaram. Elle touche cette fois directement le Premier ministre, puisque sa propre fille dit dans un livre avoir été passée à tabac quand elle avait 14 ans lors d'un camp d'été organisé par la congrégation religieuse à la tête de l'établissement scolaire catholique. Elle assure toutefois que son père n'était pas au courant, car elle a gardé le silence pendant 30 ans. Raphaël Delvolvé, l'entourage du chef du gouvernement, fait savoir ce matin que François Bayrou est bouleversé.
Le Premier ministre pourrait s'exprimer dans la journée. Les questions de la presse ne devraient effectivement pas manquer tout à l'heure dans la région de Lyon où François Bayrou doit rencontrer des agents pénitentiaires. Peu de chance que la ligne du Premier ministre évolue. Accusé par la gauche de ne pas avoir dénoncé des violences dont il avait selon elle connaissance, François Bayrou a toujours dit n'avoir jamais rien su des incidents avant les premières révélations de Mediapart. Il l'a toujours répété, même si depuis, un juge et un gendarme l'ont à leur tour accusé d'avoir couvert l'établissement catholique. Le témoignage de la fille Bayrou interroge d'ailleurs aussi sur le moment, puisque dans 3 semaines, le 14 mai prochain, le Premier ministre est auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur Betaram. Depuis l'éclatement de l'affaire, le gouvernement a voulu se montrer à la hauteur du scandale. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé un plan avec notamment un projet de questionnaire adressé aux élèves d'internat.
En Guyane, le plus grand réseau d'orpaillage illégal a été démantelé récemment. L'orpaillage illégal ou l'extraction d'or illégal est un véritable fléau pour l'environnement, la santé, l'économie et les populations. Ce démantèlement est une avancée importante dans la lutte contre cette pratique criminelle. L'OECAL.
Une cinquantaine de gendarmes et 2 mois d'enquête auront permis de démanteler ce vaste réseau criminel. Une opération d'envergure, souligne le général Saint-Yves.
Elle a permis l'interpellation de 3 individus de nationalité brésilienne, dont les 2 têtes de réseau, plus d'un individu français.
10 tonnes de matériel utilisés pour l'exploitation et pour le transport de l'or ont été saisies. Pour le général Saint-Yves, cette opération est un tournant dans la lutte contre l'orpaillage illégal.
Régulièrement, on interpelle des orpailleurs illégaux en action d'orpaillage illégal un peu partout en Guyane. On interpelle un véhicule avec tout un tas de matériel d'orpaillage, mais sans remonter sur celui qui l'organise. Or là, dans ce cadre-là, on est remonté sur l'organisateur. C'est une enquête de fond. Ça permet de voir que, effectivement, on a un réseau logistique totalement organisé.
Le travail continue, assure le général Saint-Yves. Entre 400 et 500 sites d'extraction sont éparpillés dans tout le territoire.
Ces sites sont des petits sites qui sont explosés partout en Guyane, qui sont extrêmement diffus et divers. On a aussi, sur l'ouest et sur le sud de la Guyane, d'autres réseaux logistiques qui alimentent les sites d'orpaillage illégal. Et évidemment, la lutte ne s'arrête pas là.
Combattre l'orpaillage illégal est un enjeu majeur en Guyane. Les conséquences de cette activité sont lourdes pour l'environnement comme pour la santé des populations.
Et là, on termine ce journal en se posant une question essentielle. Est-ce que vous pratiquez le glamping en regardant des dramédies?
Mais peut-être, sans le savoir.
Alors, quelqu'un ici va
nous
répondre.
J'ai peur de ce que j'ai répondu.
Glamping, dramédie sont 2 des 150 nouveaux mots, ou des locutions ou expressions qui font leur entrée dans l'édition 2026 du dictionnaire Larousse. C'est une info exclusive du magazine français Le Point, des mots qui traduisent l'évolution de notre société et la vitalité de la francophonie. Alors Olivier Roger, expliquez-nous tout sur le glamping.
Alors rassurez-vous, ce n'est pas une maladie glamping, c'est la contraction de 2 mots, camping et glamour, autrement dit c'est un camping de luxe. En revanche, il vous arrive peut-être de regarder des dramédies, c'est un genre hybride qui mêle le drame et la comédie. Alors Avant, on appelait ça une comédie dramatique, mais voilà, que voulez-vous, tout évolue. On ne va pas bader pour si peu. Bader, qui vient de l'anglais bad et signifie s'attrister, lui aussi fait son entrée dans le dictionnaire. L'anglais fournit toujours son lot de néologismes à la langue française. C'est le cas de food truck, l'ancienne baraque à frites du nord de la France, ennoblie par la langue de Shakespeare. Le Québec francophone n'est pas en reste. Cette année, c'est à plat ventrisme qui séduit le Larousse. L'aplat ventrisme, ou le fait de se mettre à plat ventre devant plus fort que soi. Les questions environnementales, engendrent elles aussi un certain nombre de locutions nouvelles, biopesticides, un pesticide naturel ou encore ensemencement, celui des nuages par exemple. Mais le mot de l'année, c'est le fameux prompt. Le prompt étant la suite d'instructions que vous dictez à une intelligence artificielle pour qu'elle travaille à votre place. Par exemple, rédige-moi un papier drôle et bien écrit sur les nouveaux mots du dictionnaire. C'est en quelque sorte le mot de la fin pour nous, les journalistes.
Merci beaucoup, Olivier Roger. J'ai appris aussi qu'il y avait la boccia qui avait fait son apparition dans ce nouveau dictionnaire.
Je ne sais pas non plus ce que c'est.
La boccia, la pétanque.
Médaille d'or aux Jeux paralympiques, si je ne m'abuse.
Exactement.
Mais vous m'offrez une transition sur un plateau. On va parler des sports, justement. Bonjour, Thomas de Saint-Léger.
Bonjour, Anne.
On va parler de boccia, on va parler de football. Nous sommes à moins d'une semaine d'Arsenal PSG, première manche de la demi-finale de la Ligue des Champions entre les deux clubs qui en attendant jouent en championnat.
Et on s'observe forcément hier, le PSG a concédé le nul un partout à Nantes dans un match décalé de la 29e journée de Ligue 1. Petit faux pas sans conséquence au classement, les Parisiens sont assurés déjà du titre de champion, mais il y avait mieux à faire peut-être pour se mettre en confiance, envoyer un message à Arsenal qui ce soir reçoit Crystal Palace. Information importante, si les Gunners perdent ce match, ils offriront sur un plateau la Première Ligue à Liverpool, confortable leader et donc potentiellement sacré tout à l'heure devant la télévision.
En Première Ligue, toujours une bonne opération pour Manchester City hier.
Dans la bataille pour le podium et plus largement le top 5, les Citizens ont dominé un concurrent direct, Aston Villa 2-1, avec un but vainqueur inscrit dans les dernières secondes. Autre but qui vaut cher, celui marqué par le joueur du FC Barcelone, Dani Olmo, contre Mallorca hier soir. Il permet aux Catalans de gagner 1-0 et de s'envoler en tête de la Liga, 7 points d'avance sur le Real Madrid en déplacement à Getafe ce soir. Ce soir aussi, c'est derby en Italie. Inter, Milan AC, demi-finale retour de la Coupe Nationale. Les deux frères ennemis s'étaient séparés sur un nul un partout à l'aller.
En tennis, faux départ pour Giovanni Pecci-Péricard au Masters 1000 de Madrid.
Le jeune Français sorti ce matin par l'Argentin Mariano Navone, une défaite en deux manches. Ça passe en revanche pour Arthur Hinderknecht, vainqueur du Russe Roman Safiulin. Les principaux favoris, Alcaraz, Djokovic et compagnie, entreront en lice un peu plus tard au deuxième tour de ce tournoi sur terre battue qui, au début des années 2000, souvenez-vous, rêvait de concurrencer Roland Garros. On en est loin aujourd'hui. Critique des joueurs, loge clairsemée, le Masters 1000 de Madrid n'emballe pas grand monde, Pierre Chaperon.
Tribune clairsemée, ciel maussade, comme chaque année, à cette période, le tournoi de Madrid a du mal à séduire. Mais pour les Espagnols, c'est le rendez-vous tennis de l'année. Une valeur sentimentale pour Guillermo Raquette en bandoulière.
C'est particulier. Il y a un soutien particulier à nos joueurs. Sentimentalement, c'est important. Et puis c'est une préparation au meilleur tournoi de la saison, Roland-Garros.
Organisé à une trentaine de minutes en métro du centre-ville, un site à ciel ouvert, exposé aux quatre vents, situé à 600 mètres d'altitude, résultat des joueurs qui critiquent le manque d'espace pour s'entraîner et des spectateurs qui dénoncent les prix excessifs de la restauration, par exemple. Des critiques logiques pour Diego Olivencia, journaliste pour le site El Imparcial.
Comparé à Roland Garros où l'organisation est incroyable, ici on programme des matchs parfois très tard. On pourrait faire mieux, surtout quand on sait que c'est un gros tournoi, l'un des plus importants sur terre battue.
Et des critiques balayées d'un revers demain par la direction du tournoi, un tournoi qui permet malgré tout aux Madrilènes d'applaudir les héros du tennis national. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Enfin du basket, Thomas, sur les parquets de la NBA. D'abord, les Lakers de Los Angeles reviennent à hauteur du Minnesota au premier tour des playoffs.
Ils avaient perdu d'entrée à domicile. Les coéquipiers de Luka Doncic se sont remis à l'endroit, victoire 94-85, synonyme d'égalisation à un partout dans cette série. Le Thunder d'Oklahoma fait le break de son côté. Deuxième victoire en deux matchs face à Memphis. Idem pour Indiana aux dépens des Bucks de Milwaukee. Succès la nuit dernière avec un excellent match de Pascal Siakam. 24 points, 11 rebonds pour le Camerounais. Et puis en Europe, c'est le début des quarts de finale de l'Euroleague. Le Paris Basket s'incline de justesse à Istanbul dans la salle du Fenerbahçe. Les Parisiens gardent une chance dans cette série au meilleur des 5 matchs. L'autre club français, Monaco, reçoit Barcelone ce soir pour la première manche de ce duel. Et c'était mon dernier mot.
Merci Thomas de Saint-Léger. Tout de suite, on va retrouver notre invité.
RFI Midi, Anne Contner.
Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au programme Asie du Sud de Noria Research. Vous avez écrit le livre « Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine » qui a été publié aux éditions Cartala. On va revenir avec vous sur l'attaque commise hier en Inde dans la région du Cachemire. 26 morts. Notre correspondant nous rappelait tout à l'heure dans le journal que le Cachemire était une région très symbolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Parce qu'en fait, au sein de la fédération, je vais parler uniquement du côté indien, mais au sein de la fédération indienne, en fait, de l'Union indienne, c'est le seul territoire à majorité musulmane, donc dont la population est à 90% musulmane, si je retire la partie du Jammu. Et par conséquent, depuis 1947, c'était important pour attester du caractère séculariste de l'Inde de garder ce territoire au sein de la fédération indienne. Depuis qu'on a un gouvernement qui est passé au BJP, le Parti Nationaliste Hindou, en 2014, à l'inverse, le fait que le Cachemire soit complètement absorbé au sein de l'Union indienne comme un territoire avec moins de pouvoir politique que d'autres espaces indiens est aussi un enjeu de gouvernement. Donc il est important à double titre.
Alors, cette attaque, c'est un vrai choc dans le pays. C'est l'attaque la plus meurtrière qui a été commise contre des civils depuis plus de 15 ans. Ça aussi, c'est important. Les assaillants, parce qu'il y en a eu des affrontements au Cachemire, cette fois n'ont pas visé des militaires.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'alors le gouvernement indien systématiquement parle d'attaques terroristes, quand bien même les attaques de 2019, par exemple, ciblaient une base militaire. Tout ça, je le précise parce que c'est dans le cadre d'un récit qui consiste à dire que les développements qu'il y a au Cachemire depuis les années 90, l'insurrection locale, en fait, est le fait de terroristes qui seraient juste en rébellion, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de légitimer évidemment la violence terroriste quelle qu'elle soit, mais quand on regarde les revendications des attaques qui ont lieu au Cachemire depuis les années 90, en fait, ce sont des groupes qui demandent la reconnaissance et l'autonomie du Cachemire, parfois son rattachement au Pakistan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un combat politique pour des droits politiques d'une population qui, depuis 1990, est soumise à une loi militaire et arbitraire, hein, qui fait que Bill Clinton a considéré cette zone comme la zone la plus militarisée du monde dans les années 2000, avec à peu près 500 000 forces de sécurité dans une zone du Cachemire. La vallée du Cachemire qui coûte à peu près 7 millions d'habitants. Et en fait, c'est très important parce qu'effectivement, là, le fait qu'on change avant on s'attaquait uniquement à des militaires, le fait maintenant qu'on s'attaque à des civils, alors des civils qui sont considérés comme indiens, c'est-à-dire non cachemiris, des gens qui sont considérés par les cachemiris un peu comme des étrangers au regard des développements politiques locaux, attestent en fait d'une montée en puissance un peu des revendications qui là utilisent la violence et la violence en l'occurrence terroriste.
Alors vous nous l'avez dit, il y a un récit officiel pour présenter les groupes comme des terroristes. L'attaque a été revendiquée par un groupe qui s'appelle The Resistance Front. Qui sont ces combattants ?
Alors l'attaque en fait elle a été revendiquée par deux groupes, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Il est bien important de préciser en fait que cette attaque, encore une fois je répète, qui cible des civils indien, elle fait suite à la suppression des droits spéciaux qui étaient autorisés, reconnus à l'État du Cachemire depuis 1947. Cette suppression, elle a lieu en 2019. Et ce qui est très important à retenir là-dedans, puisque c'est lié aux attaques d'hier, c'est que la suppression de cette autonomie, elle autorise en fait depuis 2019 des non-cachemiris à acheter des terres au Cachemire. Et là, l'État, les autorités cachemiris, qui régissent le Cachemire, reconnaissent qu'à peu près 85 000 personnes se seraient installées depuis 2019. Or, pour en revenir à votre question très précise des revendications, il y a deux groupes qui revendiquent cette attaque dans des messages, dans les deux cas, non authentifiés par les autorités. Dans un cas, on a un groupe qui est terroriste, plutôt lié à des terroristes pakistanais, avec une forte coloration identitaire et islamique musulmane, mais au sens juste de reconnaissance d'une identité singulière du Cachemire. Et puis, dans l'autre cas, il y a un groupe qui s'appelle le Kashmiri Resistance, et qui lui, en fait, dans son communiqué de presse, ne fait référence à aucune dimension identitaire, pour le dire vite, mais uniquement, et c'est déjà énorme, hein, mais uniquement à ce qui se passe justement auquel j'ai fait référence, c'est-à-dire la vente de terres, ce qui est vécu par des Cachemiris comme un vol à des non-Cachemiris et le remplacement démographique en cours. Alors à ce stade, il serait vraiment très imprudent de statuer quel groupe a raison et quel groupe a tort, entre guillemets, et instrumentalise un peu ces attaques, mais il est très important de garder quand même, selon moi, la dimension économique de fond, c'est-à-dire le fait que
avec cette notion des terres que vous évoquez, je voudrais vous poser une dernière question, puisque vous avez précisé que c'était une région à majorité musulmane et que donc il y avait en cours un changement démographique qui commençait. Le ministre de la Défense a promis une réponse sans ambiguïté à cette attaque. Est-ce qu'il faut craindre, selon vous, une répression encore plus grande contre la population musulmane ?
Alors, vous savez, il est déjà très compliqué d'envisager une résistance et une répression à chaque fois plus dure parce qu'on ne parle jamais de ce coin-là du monde, mais la répression est déjà énorme. On estime que 99% de la population est victime de PTS, de syndrome post-traumatique au regard des exactions, etc. Il y a énormément de personnes enlevées, il y a tout un trou dans la pyramide démographique, etc. Ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement, depuis 2014, enfin, il y a quand même une continuité, quelle que soit la couleur politique du gouvernement en place. Mais le BJP, notamment, réprime encore plus férocement. Or, ce faisant, il contribue à nourrir, en fait, les motifs de répression et d'entrée en militantisme politique violent de la part de la jeunesse Cachemiri, qui n'a absolument plus rien à perdre et qui, surtout, constate le fait que ces emplois et ces terres sont donnés à des non-Cachemiri, et ceci de plus en plus depuis 2019. Voilà.
Merci beaucoup Charlotte Thomas d'avoir été en ligne avec nous, chercheuse associée au programme Asie du Sud de Noria Research. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Les Européens renforcent leur défense, on en a beaucoup parlé ici. Et en France, l'armée de terre s'entraîne aussi différemment et elle se prépare à une guerre de haute intensité. Notre reporter Franck Alexandre a assisté à un exercice à Angoulême, dans le sud-ouest de la France.
Henri Marin 25,
Marsouin. Du Centaure, il est plus vers l'est, hein, je crois.
Ouais, mais là, c'est bon. Celui que je t'envoie, il va être à jour.
Dernier jour de la manœuvre, hein, c'est ça ?
Tout s'est bien passé. On a pu tester plein de procédures qui sont inhabituelles pour nous, en particulier le silence électromagnétique.
Département de la Charente, sous le couvert d'une bretelle d'autoroute, les troupes d'infanterie de marine ont établi leur poste de commandement.
Toutes nos communications émettent un signal. Et pour plus de discrétion, on a testé un nouveau dispositif, faire une bulle de silence, pour être le plus discret jusqu'aux approches d'Angoulême.
C'est l'exercice Balrit, la simulation d'une intervention de l'OTAN dans un conflit de haute intensité. 600 soldats en terrain libre. Obligation leur est faite de se diluer. D'un chemin creux émerge une tourelle de char, le Jaguar de l'adjudant Max.
Tu démarres, Dédé ? Dis donc, on a eu quoi de situation de propos ?
L'exercice, dans ses directives, essaye de coller le plus possible à la réalité actuelle, d'avoir des incidents les plus fidèles possibles. Effectivement, avec le commandement par subsidiarité, il y a de plus en plus d'autonomie au sein des équipages, au sein des chefs d'engin, etc. Et on fait une sorte de commandement par objectif. Moi, par exemple, je suis chef de peloton d'un peloton Jaguar. Et donc, quand je reçois mes ordres, je suis un peu plus décisionnaire. Je choisis mes itinéraires, je choisis mon articulation au sein de mon peloton, je choisis ce que je vais employer comme moyen pour arriver à remplir ma mission.
Il y a deux gaz qui ont été dictés sur les rives est de l'Houmeau, donc de l'autre côté de la Charente. Le point de franchissement, il est miné. Pour l'instant, il y a le génie qui intervient.
Si chaque individu attend des ordres et des listes de tâches de la part de son supérieur, ça ne marchera pas, c'est impossible. C'est comme ça qu'on se fait déborder par l'ennemi.
Colonel Bignon, chef de corps du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême.
Chacun vient prendre sa bulle de responsabilité et d'initiative jusqu'au dernier des soldats qui, lui, il sait ce qu'il doit faire sans attendre que son chef lui dise « Non, plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt sous l'arbre ». Il doit être autonome là-dedans et ça, c'est vraiment pour nous très important de faire ce genre d'exercice parce que ça fait travailler tous les échelons de commandement.
Reportage de Franck Alexandre.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.